Merci de vous joindre à nous sur Radio Orient. Il est 17h, le journal Nadia Bencher. Voici les titres de cette édition. 6 mois après le début de la guerre, l'Iran tend à nouveau la main à Washington et se dit prêt à reprendre les négociations malgré le durcissement des sanctions américaines. Ceuta sous haute tension après plusieurs jours de violence entre habitants, migrants et forces de l'ordre dans l'enclave espagnole. Madrid appelle au calme. Catastrophe dans l'Himalaya, le bilan grimpe à 579 morts et plus de 1400 disparus, tandis qu'une centaine d'ouvriers restent piégés dans un tunnel au Népal. Bonjour. 6 mois après le début de la guerre au Moyen-Orient, l'Iran laisse toujours la porte ouverte à des négociations avec Washington, malgré l'impasse diplomatique et le durcissement des sanctions américaines. Le chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, assure que remettre la diplomatie sur les rails n'est pas impossible, à condition que les États-Unis renoncent à leur stratégie de pression économique. Sur le terrain, les frappes ont quasiment cessé, mais le bras de fer se concentre désormais sur le détroit d'Ormuz, toujours verrouillé par Téhéran. L'Iran conditionne sa réouverture au respect par Washington de ses engagements, notamment la levée du blocus de ses ports et des sanctions économiques. L'actualité au Proche-Orient, à Gaza, 3 membres d'une même famille ont été tués ce vendredi dans des frappes israéliennes à Al-Qarara, dans le sud de l'enclave, selon la défense civile. Ces nouvelles frappes interviennent au lendemain de 3 autres morts et alors que le représentant du Conseil de paix pour Gaza met en garde contre toute action militaire susceptible de compromettre le processus de paix américain. Et puis d'autres opérations sont en cours en Cisjordanie, cette fois près de Jenin, où l'armée israélienne dit cibler plusieurs terroristes, ce sont ces termes. En Syrie, 2 personnes, dont un garçon de 13 ans, ont été tuées dans l'explosion d'une grenade devant le palais de justice de Hasake dans le nord-est du pays. Une région récemment repassée sous le contrôle de Damas après l'accord d'intégration des institutions kurdes. Un accord qui franchit justement une nouvelle étape politique. L'ancien chef des forces démocratiques syriennes, Mazloum Abdi, vient d'être nommé conseiller du président Ahmad al-Shara quelques jours après la dissolution des FDS. Autre geste fort envers les Kurdes, leur langue est désormais autorisée dans les écoles des régions où ils sont fortement représentés. 27 ans après les attentats du 11 septembre, leur cerveau présumé devrait enfin être jugé. La justice militaire américaine a fixé au 5 juin 2028 à Guantanamo l'ouverture du procès de Khaled Sheikh Mohammed et de 3 co-accusés. La procédure est bloquée depuis des années, notamment par le débat sur la recevabilité d'aveux et d'éléments obtenus sous la torture. 1 mois après l'arrivée massive de migrants à Ceuta, la tension monte dans l'enclave espagnole. Des manifestations d'habitants réclamant leur départ ont dégénéré ces derniers jours en violence et plusieurs migrants marocains ont été arrêtés. Le ministre espagnol de l'Intérieur appelle au calme et prévient « la violence n'est pas la solution ». Les précisions de François-Xavier de Calonne.
Oui, vous l'avez dit, la situation reste tendue à Ceuta. 1 mois après l'arrivée de dizaines de milliers de migrants depuis le Maroc, entre 5 et 10 000 personnes se trouvent toujours dans l'enclave espagnole, d'après les estimations des autorités. Alors certaines vivent dans des camps improvisés ou dorment sur les plages. Depuis plusieurs jours, les manifestations d'habitants qui dénoncent des problèmes de sécurité et demandent leur départ ont pris de l'ampleur. Hier, par exemple, des affrontements ont éclaté sur une plage, là où campaient des migrants et certains de leurs effets personnels ont été incendiés. Le même jour, un véhicule militaire a été pris pour cible par environ 70 personnes. Un soldat a été blessé et 12 Marocains ont été arrêtés. 2 autres ressortissants marocains ont aussi été interpellés après l'agression d'un agent de la garde civile. La nuit dernière s'est toutefois déroulée sans incident et face à ces tensions, le ministre espagnol de l'Intérieur appelle à la cessation de toute forme de violence. Il reconnaît que la situation constitue toujours une urgence et accuse la droite et l'extrême droite d'attiser les tensions.
L'Algérie reste mobilisée face aux incendies qui frappent le nord-est du pays. Le bilan demeure de 12 morts et 54 blessés, dont 6 grièvement, tandis que 64 foyers étaient encore actifs ce vendredi, malgré l'importante mobilisation des secours. Jijel reste la wilaya la plus touchée devant Skikda et El Tarf. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président Abdelmajid Tebboune. Alors que les opérations se poursuivent, l'ampleur de ces incendies relance la question des moyens de lutte contre le feu. Mais pour Soufiane Djilali, personnalité politique et ancien président de Gil Jadid, le défi est aussi environnemental. La sécheresse, le manque de pluie et une végétation extrêmement sèche favorisent la propagation des plames. On l'écoute.
Il y a officiellement pour le moment une douzaine de morts, mais très probablement le bilan va s'élever à beaucoup plus. Malheureusement, je crois que le problème est assez général. En tout cas, les Algériens sont choqués par le ravage des flammes et ils voient l'ampleur du désastre. Il n'y a pas de doute que le pays est dans une émotion extrêmement puissante.
Concernant les moyens mis en place face à ces incendies particulièrement meurtriers, est-ce que vous pouvez nous faire part justement de ces moyens? Sont-ils suffisants aujourd'hui?
Oui, par rapport à l'ampleur des dégâts, on peut toujours dire que les moyens sont insuffisants, mais le problème, je crois, est ailleurs. L'Algérie, comme beaucoup d'autres pays méditerranéens en particulier, fait face à ce problème d'incendie à cause de la sécheresse en particulier, qui fait que dans les forêts, il y a beaucoup de broussailles, et beaucoup de bois très sec. Il y a un manque de pluie évident. Et donc quand vous avez des incendies aussi nombreux, aussi multiples, il est très difficile d'y faire face. Maintenant, la population elle-même s'est mobilisée. Elle est aux côtés des services de la protection civile. Donc ils essayent de coopérer, de sauver ce qui peut être sauvé, mais ce n'est pas facile. Je pense que même en France, en Espagne, et ailleurs aussi, le pourtour méditerranéen est en proie à des incendies de plus en plus ravageurs.
Et justement, est-ce que le pays aurait besoin d'une aide internationale, une aide inter-nord-africaine ou également européenne?
Généralement, quand il y a ce genre d'incendie, il est évident que les pays ont besoin de solidarité au moins, ils ont besoin d'entraide. L'Algérie elle-même a souvent aidé d'autres pays qui étaient dans ces cas-là.
Et ce deuil de 3 jours, comment est-ce que cela se traduit? Il y a par exemple l'annulation de compétitions sportives.
Généralement, c'est surtout les concerts de musique, c'est les fêtes. Vous savez, nous sommes en fin de l'été, beaucoup d'Algériens sont ici, il y a beaucoup de fêtes locales, etc. Mais par signe de solidarité avec ceux qui subissent ces drames, le pays a décidé d'un deuil de 3 jours. Oui. C'est une marque de solidarité avec ceux qui souffrent actuellement.
Soufiane Djilali, politique et ancien président de Gil Jadid, au micro de François-Xavier de Calonne. Au Népal, une course contre la montre est engagée pour sauver plus d'une centaine d'ouvriers coincés dans le tunnel d'un barrage hydroélectrique depuis la crue dévastatrice de mercredi. 2 hélicoptères ont été dépêchés sur place, mais les secours peinent toujours à localiser les entrées du tunnel dans une zone difficile d'accès. Le bilan de la catastrophe s'est encore considérablement alourdi. Au moins 579 personnes au Népal et au Tibet et plus de 1400 disparus. Une nouvelle alerte a par ailleurs été déclenchée face aux risques liés à la rupture d'une vaste retenue d'eau formée après l'effondrement d'un glacier côté tibétain. Les premières équipes de secours chinoises ont désormais atteint le cœur de la zone sinistrée. Emmanuel Macron sera à Londres mercredi et jeudi pour inaugurer l'exposition exceptionnelle de la tapisserie de Bayeux au British Museum. Une visite également très politique. Le chef de l'État rencontrera pour la première fois le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham, avec l'objectif de poursuivre le rapprochement entre Londres, Paris et l'Union européenne. La présidentielle aiguise les ambitions et à droite comme au centre, les prétendants se bousculent. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, David Linard, Xavier Bertrand, cinq noms déjà dans la course, alors que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dominent les sondages aux deux extrêmes. Mais la campagne est encore loin d'avoir livré toutes ses surprises. Une autre personnalité peut-elle surgir, bousculer le jeu et s'imposer face aux candidats déjà déclarés? Et surtout, les partis traditionnels sont-ils encore en mesure de résister à la défiance d'une partie de l'électorat? L'analyse d'Arnaud Benedetti, politologue et directeur de la Nouvelle Revue Politique.
Tout est possible en politique, que des ambitions qui pour l'instant restent tapies dans le clair-obscur de ce début de campagne, de pré-campagne présidentielle, c'est quelque chose qu'il ne faut pas écarter. Le vrai sujet, c'est que la politique, vous savez, c'est de la physique de force aussi. Et le vrai sujet, c'est que les forces aujourd'hui sociologiques, qui sont les forces sociologiques fortes sur le plan électoral, notamment les classes populaires et les classes moyennes, ne se retrouvent pas forcément dans des offres politiques qui sont des offres politiques qui seraient plus ou moins héritières des partis de gouvernement. Le véritable enjeu de cette élection présidentielle, je crois que c'est celui de savoir si cette fois-ci les partis de gouvernement qui gouvernent vont être capables de pouvoir survivre à la vague de dégagisme qui ne cesse de monter dans ce pays. C'est ça le véritable enjeu de la présidentielle, quelle que soit la personnalité ensuite qui puisse éventuellement surgir. Alors si cette personnalité est une personnalité qui est associée à des partis de gouvernement, ça sera à mon sens quand même beaucoup plus difficile pour elle, même si en politique tout est possible. Si c'est une personnalité que l'on n'attend pas ou que l'on n'a pas identifiée et qui tout d'un coup pourrait, dans un trou de souris, surgir et incarner une offre d'alternative, c'est peut-être autre chose. Mais pour l'instant, on ne voit pas ce profil de manière très explicite surgir dans un horizon qui lui permette de prendre suffisamment d'ailleurs d'élan pour ensuite être candidat dans une campagne qui quand même nécessite d'installer son image et d'installer sa crédibilité.
Arnaud Benedetti, politologue et directeur de la Nouvelle Revue Politique au micro de François-Xavier de Calonne. Dans le reste de l'actualité en Haute-Corse, l'incendie de Calenzana est désormais fixé après avoir parcouru près de 64 hectares. Cette maison, 5 bungalows et une dizaine de véhicules ont été détruits. 3 personnes ont été intoxiquées par la fumée. Accidents du travail et maladies professionnelles, les indemnités journalières vont être revues à la baisse dès le 1er novembre. Leur plafond passera de plus de 3 fois à moins de 2 fois le SMIC, une mesure qui devrait permettre 270 millions d'euros d'économies en 2027. L'emploi résiste mais montre des signes de fragilité. Près de 24 000 emplois salariés ont été perdus au deuxième trimestre, soit un léger recul de 0,1% dans un contexte de croissance à l'arrêt. Un mot de sport pour finir, football, premier choc de la saison en Ligue 1 ce soir entre Lille et le PSG. Coup d'envoi à 20h45 au stade de Pierre Mauroy. Après son nul à Rennes lors de la première journée, Paris cherchera sa première victoire en championnat face à des Lillois qui ont parfaitement démarré leur saison en s'imposant à Angers. C'est la fin de cette édition. Merci à Anis pour la mise en onde. Prochaine édition en langue arabe à 17h30, ce sera avec Mazen Hamoud. Je vous retrouve à 18h pour un point complet. Excellente écoute sur Radio Orient.